pourquoi j'écris? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça.
Qu'est-ce à dire? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà dans Du vent dans les pages, cinquième édition, avec nos lectrices fidèles et éclairées. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Anne, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on n'est pas au Café Fluxus, on est dans les studios de Studio Zef, parce que le Fluxus est en vacances. Donc voilà, je pense que ça te fait plaisir, Anne, parce qu'au moins, il n'y aura pas un.
Oui, la dernière fois, c'était quand même...
Quoique
un peu difficile.
Un Fluxus fermé, ça aurait été parfait.
Oui, mais eux, ils n'étaient pas trop d'accord quand même. Ouais, même s'ils sont très ouverts. Voilà. Alors, on va dire, Anne, c'est toi qui commences. Je te laisse la parole tout de suite avec ton premier choix.
Alors, mon premier choix, c'est un livre qui a 50 ans cette année, qui s'appelle « Une soupe aux herbes sauvages » et qui a été écrit par Émilie Carles. Mmh. Alors, il y a trois sortes de livres. Il y a les livres qu'on achète parce qu'on vous dit de les acheter, qui vous rasent et qu'on enterre. Il y a les livres qui vous font plaisir, mais qu'on enterre aussi parce qu'on ne les lit qu'une fois. Et puis, il y a les livres cultes qu'on lit et qu'on relit. Et moi, Une soupe aux herbes sauvages, je l'ai peut-être lu 5 fois avec toujours autant de plaisir parce que c'est un livre qui est rempli d'humanité et de bonheur de vivre. Émilie Carles est née en 1900. C'est une petite fille de paysan, une fille et une petite fille de paysan, qui n'a jamais connu que sa vallée. Pardon, je me rapproche du micro.
Ça va, on t'entend bien.
Qui n'a jamais connu que sa vallée dans le Briançonnais, une vallée qui s'appelle Val des Prés. Donc, elle rêve d'être institutrice. Elle est dans une famille de 5 enfants. Tout le monde est paysan. Et bien entendu, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut aller faire les travaux des champs le matin en se levant avant d'aller à l'école. Le midi, quand on rentre avec 7 km dans les pattes en revenant de l'école. Et le soir, pour aller donner à manger aux bêtes. Elle part à Paris, elle réussit son brevet. Elle a une bourse, elle réussit son brevet. Et elle part à Paris et elle fait partie d'un groupe qui est affilié aux jeunesses communistes parce que déjà, dans son esprit, l'égalité sociale n'existe pas et elle est très tournée vers cette façon de penser. Et puis, il est arrivé un drame dans sa vie en 1918. Elle a donc 18 ans. C'est la fin de la guerre de 14. Et son frère préféré, Joseph, ne rentre pas de la guerre. Il est mort de faim dans un camp de prisonniers le 11 novembre 1918. Ce qui déclenche chez elle une rage contre tout ce qui est guerre et agressivité. Et elle devient pacifiste convaincue et militante. Elle se marie avec un ouvrier qui a des idées libertaires, qui lui fait découvrir des auteurs qui vont tout à fait dans le sens de sa façon de penser. Et tout au long de sa carrière, parce qu'elle est institutrice bien sûr, et qu'elle a réussi à se faire affecter à Val-des-Prés, qui est la ville de son enfance, enfin le village de son enfance, elle essaiera de donner aux enfants cet humanisme et cette capacité à s'intéresser à tous et à refuser la guerre sous toutes ses formes. Alors, la fin de son livre, alors bien sûr, ce livre, c'est un livre de souvenirs, des histoires qui se sont passées, sa façon de vivre depuis sa naissance jusqu'à sa mort, puisque finalement, le livre se termine peu de temps avant qu'elle meure. Et je voudrais vous lire un passage qui résume parfaitement sa façon de penser. « Je fus enfin nommée institutrice à Val-des-Prés en 1945 et j'y suis restée jusqu'à ce que je prenne ma retraite en 1962. Pour moi, c'était l'aboutissement de tout ce que j'avais rêvé depuis que j'étais petite fille, faire la classe aux enfants de mon village. Je ne pouvais rien souhaiter de mieux. Apprendre aux gosses à lire et écrire est une chose. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. J'avais toujours eu de l'école, de son rôle et de celui du maître, une idée plus élevée. À mes yeux, c'est à l'école communale que les enfants prennent la mesure du monde et de la société. Après, quel que soit leur métier, leur orientation, c'est trop tard. Le pli est pris. S'il est bon, tant mieux, mais s'il est mauvais, il n'y a plus rien à faire. Dans un pays arriéré comme ici, avec la vie que j'avais eue, ce qui me paraissait essentiel, c'était de leur ouvrir l'esprit à la vie, c'est-à-dire de faire éclater les barrières dans lesquelles ils étaient enfermés et de leur faire comprendre que la terre est ronde, infinie et diverse, et que chaque individu, qu'il soit blanc ou noir ou jaune, a le droit et le devoir de penser et ne décider que par lui-même. J'avais autant appris par la vie que par les études. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais pu juger mes élèves uniquement sur le résultat de leurs devoirs, mais aussi sur la manière dont ils se comportaient dans la vie de tous les jours. Par exemple, je ne leur ai jamais caché que tout autant qu'ils étaient, ils n'échapperaient pas à la réalité sociale et qu'au bout du compte, ils devraient travailler pour gagner leur vie. Mais en même temps, je les mettais en garde contre les abus de toutes sortes. Je leur disais qu'un homme doit se défendre contre l'exploitation et contre l'abrutissement par le travail. Je leur disais aussi, ce qui est le plus important pour un jeune, c'est de choisir un métier qui lui plaise et qu'il aime. Sinon, il devient un forcené, un esclave et un malheureux. Au bout de ce raisonnement, je leur parlais toujours de la liberté, leur répétant que cette fameuse liberté ne devait pas être un mot inscrit au fronton des droits de l'homme, une liberté abstraite et illusoire, mais au contraire, une réalité pour chacun d'entre eux. Méfiez-vous des politiques, méfiez-vous des beaux parleurs, efforcez-vous de juger par vous-même et surtout, profitez des beautés de la vie. Je trouve que ça résume parfaitement toute la vie d'Émilie Carless et ça vaut... Enfin, je trouve que c'est presque une Bible qu'on devrait avoir à côté de soi et à laquelle on devrait se référer de temps en temps. Voilà. Alors, c'est un livre qui est au livre de poche, bien entendu, 50 ans après, ça vaut mieux. Émilie Carless... Elle a sur la couverture une figure de grand-mère bien tranquille, et pourtant c'est un caractère bien trempé.
Cheveux blancs, peau mate,
bien tannée, un sourire délicieux et des yeux extrêmement futés.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, c'est surtout pour le message que tu le relis régulièrement.
Tout à fait. Je trouve que elle a eu une vie terrible.
Ouais.
Elle a perdu ce frère, elle a perdu une sœur en couche parce que la jeune femme était tellement farouche qu'elle ne voulait pas que le médecin l'approche pour l'accoucher. Son beau-frère est allé se faire tuer quand il a su que sa femme était morte en couche. Il est parti se jeter sur les balles en retournant sur le front d'Italie. Elle a perdu une petite fille qui a été écrasée par un camion quand elle avait 6 ans.
Eh ben.
Son mari a été sur une liste d'otages.
Ouais.
Et malgré tout ça, elle a eu une force de vie, une puissance et puis une lutte constante, ne se gênant pas pour parler au préfet quand il venait par hasard se perdre dans la campagne profonde et disant ce qu'elle avait à dire. Quoi.
Mais justement, par rapport à ça, à cette époque-là et dans cette condition, cette région, comme elle dit, un peu reculée, etc.
Tout à fait, oui.
Ça devait être aussi compliqué pour les gens d'accepter ce genre de discours.
Tout à fait. Pendant très longtemps, elle reconnaît qu'elle et son mari ont été les seules personnes votant à gauche.
Du village.
Du village.
Ah, ouais.
Et même de la région, d'ailleurs.
Et malgré tout, elle a pu exercer son métier tranquillement, sans que...
Elle s'est battue. Alors, le fait qu'elle demande à retourner à la campagne, à simplifier les choses, parce qu'on ne l'acceptait pas en ville. On n'aurait pas voulu avoir une personne qui ameute les foules comme ça. En même temps, ça n'est pas quelqu'un qui a... transgresser la loi. Elle disait ce qu'elle avait à dire, elle disait ce qu'elle pensait, mais elle était quand même relativement discrète.
Ouais,
hein. Ça s'adressait surtout aux enfants.
Merci beaucoup, Anne. Catherine, tu es en voie.
Oui. Alors, c'est dur de faire le lien, mais il y a quelques liens quand même.
Ouais.
Donc, moi aussi, je vais parler d'un livre qui se passe il y a un siècle, puisqu'elle a commencé peut-être pas il y a un siècle, mais pendant la guerre de 14,
si.
Voilà. Donc, il y a un siècle, alors qui se passe dans un pays aussi très dur, mais pas du tout chez nous. C'est un roman qui se passe en Islande. Alors, en Islande, il y a un siècle, ça commence au mois de mars. et il faut traverser ce pays et c'est donc très dur. Donc ce livre est plutôt proposé à ceux qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont envie de marcher dans la neige jusqu'à épuisement. Mais cette histoire, cette narration, cette aventure est servie par une très belle langue. Alors d'abord, ça m'a attirée parce que c'est islandais et qu'on ne lit pas souvent des romans islandais. Donc l'auteur s'appelle John Kalman Stefansson. C'est un auteur très connu en Islande. On a commencé à le traduire en France qu'à partir de 1910. Et c'est un traducteur qu'on connaît à Blois, si on s'intéresse au traducteur, puisque c'est Éric Bourri qui l'a traduit. Éric Bourri qui a été invité à la bibliothèque Abbé Grégoire, qui a été invité à l'espace culturel, qui est un traducteur fabuleux. C'est aussi pour ça et grâce à ça qu'on peut tomber amoureuse d'une langue. Et je ne parle pas un mot d'islandais, je vous rassure. Voilà. Alors l'histoire, eh bien, c'est l'histoire d'un gamin, parce qu'on... Il faut vous dire que c'est une trilogie, donc n'ayez pas peur, il y a 3 volumes, mais ce n'est pas tome 1, tome 2, tome 3. On peut ne lire que le premier tome si on n'a pas envie de s'embarquer dans l'aventure, pour le plaisir de la langue et de la découverte, mais si on est pris par l'histoire du gamin, on lit les 3 tomes, enfin les 3 volumes. Alors donc c'est l'histoire de cette vie de ces hommes, de ces femmes dans ce pays très dur. Donc, les faits se déroulent dans un petit village de pêcheurs à la morue. Il règne un froid glacial et ce froid peut se révéler meurtrier. L'histoire commence, c'est 6 pêcheurs par barque, c'est leur principe. Ils rament, il y a une voile quand il y a du vent. Chacun a son rôle bien défini, tout est important et vital dans le rituel de la pêche, chacun a sa place. Le danger est toujours présent, d'autant plus, ça n'étonnera personne, qu'aucun pêcheur ne sait nager. Mais vu la température de l'eau... Voilà. Et donc, c'est l'histoire de ce gamin. C'est son histoire qu'on raconte. Il part avec son meilleur copain, qui est plus âgé que lui, qui s'appelle Bardur. Et ce Bardur est amoureux des mots, de la poésie. Donc, même dans ce pays où un homme doit être viril et tout, eux, ils revendiquent ce goût pour les mots, la littérature. Et je vais juste faire une petite citation. « Certains mots sont probablement aptes à changer le monde. Ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des balles de fusil, d'autres des notes de violon. Certains sont capables de faire fondre la glace qui nous enserre le cœur. Il est même possible de les dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires. » Alors on comprend qu'au premier degré, c'est une aventure avec ce gamin. Et au deuxième degré, c'est aussi une métaphore sur la vie. Donc, parfois, à cause des mots, on meurt de froid. Et c'est ce qui arrive à son copain Bardur, qui est tellement occupé à retenir des vers d'un poète anglais qui s'appelle Milton, qui s'appelle Paradis perdu. Et avant de partir à la pêche, il relit quelques phrases de Milton en se disant « Je vais les retenir par cœur et dans la barque, je pourrai les dire à mon copain. » Et il part à la pêche et tout d'un coup, le vent se lève, la mer est glaciale, le vent est violent. La nature islandaise est peu clémente pour les pêcheurs à la morue. Et tout d'un coup, le vent se lève tellement, il fait tellement froid que chacun met sa veste bien chaude. Sauf que le pauvre Bardur, il cherche avec la main et sa veste, il l'a oubliée, pris par ses... Alors, ça paraît anodin, mais il en meurt. Et il en meurt parce que son copain tout de suite dit « je vais enlever ma veste » et le patron de la barque lui dit « non, 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 on est tous utiles. Donc on peut revenir à 5, on ne peut pas revenir à 4. Chacun est responsable de lui-même. » Donc c'est le départ de cette histoire où ce gamin d'abord rejette la mer, rejette la pêche. Pour lui, ce n'est pas ça la vie. Et en plus... une idée folle, il quitte et il se dit « il faut que je rapporte le livre parce que c'est quelqu'un qui l'avait prêté à son ami Bardur et il faut rendre un livre qu'on nous a prêté. » Donc il traverse la lande dans des conditions atroces pour rapporter ce livre. Voilà un petit peu l'histoire. Alors John Kalman Stefansson nous envoûte d'abord par la force de son écriture. Tout est poésie. Alors, ces mots chantent la vie, la mort, l'amitié, l'amour, la cruauté d'un monde inhospitalier. Et ce premier volume qui s'appelle « Entre ciel et terre » est d'une force hypnotique. Mais on ne sort pas indemne d'une telle lecture. Alors, je vais peut-être vous lire comme un petit passage, pour faire un clin d'œil à Émile Carle.
Du premier volume, tu nous lis un passage?
Non,
de...
là, c'est du troisième.
Du troisième,
voilà,
d'accord.
Carrément. Parce que le premier, j'avais des extraits sur la tempête, la marche dans la neige, mais vous le découvrirez tout seul. Non, c'est juste un clin d'œil sur ce qu'on peut apprendre, ce que les enseignants peuvent nous apprendre, justement. Alors, pour vous dire, donc, dans ce premier tome, il y a cette première aventure, il traverse, il ne sait même pas s'il a envie de vivre après ça. Donc, c'est tout un questionnement. Et il arrive enfin, il est sauvé par deux femmes et qui décident de lui donner un coup de pouce, qui décident de l'aider à apprendre, donc le rêve de sa vie. Et il lui propose que le directeur de l'école lui apprenne un certain nombre de choses. Et donc voilà, le directeur qui a enseigné, qui lui a parlé de la Grèce et tout ça, mais il lui dit à un moment, il y avait en Grèce 115 000 esclaves. Ils se chargeaient de tous les travaux. Les Grecs pouvaient donc penser à loisir sans ressentir la fatigue du corps. Ils n'avaient nul besoin de se débattre contre les éléments de la mer Égée sur de frêles esquifs, ne mouraient pas dans la rue, ne travaillaient pas dans la poussière et dans la chaleur. La dureté des tâches ne les écrasait pas. Ils se rapprochaient du ciel, juchés sur les épaules de leurs esclaves. L'homme est d'une nature cruelle. Nous devons de nous garder d'admirer ceux qui s'élèvent au plus haut tant que nous ignorons ce sur quoi ils se tiennent, leurs propres jambes ou la vie des autres. Et après, il lui demande « Que signifie se trahir soi-même ?» interroge Gisli, qui poursuit son monologue sans la moindre hésitation. Il interroge le gamin qui s'efforce de suivre les propos du directeur de l'école. Le gamin ferme les yeux comme pour s'échapper l'espace d'un instant. « Ne pas oser ?» Alors Gisli « Ah bon, voilà !» Mais quoi ? Ne pas oser quoi, le gamin ? Vivre ? Ne pas oser parler ? Ne pas oser avoir peur ? Ne pas oser se battre et triompher des tempêtes qui nous agitent ? Si on reste les bras croisés, on trahit tous ceux qui nous sont chers. Pour peu qu'on ait des êtres chers qui comptent pour nous. Je veux dire des êtres qui soient en vie. D'ailleurs, ça ne change peut-être rien. Je veux dire le fait qu'ils soient vivants ou pas. On doit également se garder de trahir les défunts. On doit aussi vivre pour eux. Ils ne doivent pas rester prisonniers des ténèbres et du froid. Ils ne doivent pas être oubliés au fond de l'océan. À la bonne heure, triomphe Gisli. Etc, etc. Je ne veux pas aller plus loin, je suis tentée. Donc là, ça n'a rien à voir avec le côté aventureux, mais on voit tout le parallèle dans le roman, en permanence cette quête de la compréhension de la vie, de la mort, puisque le fil, c'est une sorte de fil tendu très ténu entre la vie et la mort, et ce jeune garçon va évoluer sur ce fil en marchant, en découvrant le monde et en découvrant les gens, et en passant par le livre aussi. Il y a aussi de très belles pages, alors je n'ai pas le temps de les lire, sur la traduction justement. C'est-à-dire tout ce que peut nous apporter des autres qui habitent loin, le fait de traduire leurs écrits. Et il défend l'idée que la traduction, c'est comprendre mieux l'autre, et l'autre peut ainsi, peut-être, ne plus devenir un ennemi, mais un être humain qu'on a envie de connaître. Voilà.
Et ça nous emmène tout autour de l'Islande, où c'est un pays...
Alors, comme je suis du genre, comme je l'avais fait pour mon roman russe, j'ai été chercher un gros livre sur l'Islande. Alors, c'est là où ne vont jamais les touristes, d'ailleurs. Ça doit être vers le nord-ouest, c'est des grands fjords. D'ailleurs, il le dit au début, il y a une très belle description, je ne vous l'ai pas lu. Ces deux enfants, si je peux dire, ces deux jeunes, partent de leur village à pied pour rejoindre le lieu où ils pêchent. Ils marchent quand même 2-3 heures dans la tempête, dans la neige, avec des cordes le long de la montagne, parce que c'est un pays de fjords où il y a le blanc, le noir, parce qu'il y a des montagnes très hautes, et des parois vertigineuses, et on tombe dans la mer. Donc c'est quand même un pays hostile. Alors que l'été, même si l'été n'est pas très chaud, on a des landes, on a un pays qui peut être un peu plus...
hostile mais fascinant.
Voilà. Mais non, c'est vraiment une découverte d'un monde et c'est surtout... et puis, enfin, ce jeune, parce qu'il l'appelle le gamin, on imagine qu'il a 17-18 ans à peu près, c'est pas le héros. Il est maladroit. D'ailleurs, dans l'extrait que j'ai lu, on voit, il hésite à dire les choses, il cherche. On le voit, on voit sa construction, comment il est en devenir à travers ses expériences.
C'est pas le héros, mais...
Le héros, c'est un grand mot.
Voilà, c'est pas le héros en tant que personnage.
C'est le personnage que l'on suit tout le long.
Mais quand même, il est dans...
Oui, c'est lui.
C'est lui le fil conducteur.
C'est lui depuis le début, et on le voit grandir, découvrir la vie, avoir envie de vivre aussi. parce que même ces gens qui se posent des questions sur est-ce que je meurs, est-ce que je vis, dès qu'ils sont dans la difficulté, ils n'ont qu'une envie, c'est vivre, quoi.
Tout à fait.
Bon, alors je rappelle, mais
oui.
j'en avais mis plein,
oui,
mais voilà, c'est
ça, la frustration, c'est comme ça.
Il paraît que c'est très bien la frustration.
Tous les matins. Alors.
Donc je vous rappelle, l'auteur, c'est John Kalman Stephenson. Le premier volume s'appelle « Entre ciel et terre ». Le deuxième s'appelle « La tristesse des anges ». C'est un très beau titre. En fait, c'est la neige qui tombe, la tristesse des anges. Qui est aussi une deuxième partie avec encore une narration à travers des grands territoires. Et le troisième s'appelle « Le cœur de l'homme », où là, c'est un peu plus statique, quoi, qu'il y a des moments un peu durs, où il y a plus la rencontre avec les autres. Voilà. Ces trois romans ont été publiés chez Gallimard entre 2010 et... Enfin, bref, à partir de 2010, je ne sais plus les dates. On les trouve, bien sûr, chez les libraires, dans les bibliothèques, etc.
Merci beaucoup, Catherine. On revient vers toi tout à l'heure. Eh bien, Anne, vous êtes prête pour la deuxième séquence ?
Oui, alors moi, je quitte le Grand Nord, n'est-ce pas, pour revenir dans des températures plus agréables.
Plus clémentes.
Alors, nous avons eu le malheur de perdre Jean d'Ormesson au mois de décembre. Donc, j'ai voulu trouver un livre qui soit facile à commenter, parce que Jean d'Ormesson est tellement complexe que c'est très difficile en si peu de temps et en un petit extrait de faire quelque chose. Bon. Donc, Jean d'Ormesson s'est soumis au questionnaire de Proust. Et on lui a demandé quel est votre auteur préféré, Chateaubriand, quel est votre livre préféré, Les Mémoires d'Outre-Tombe. Chez un homme qui était aussi diplômé, aussi cultivé, ça m'a donné envie de relire une fois de plus Les Mémoires d'Outre-Tombe. Et j'ai cherché un livre qui soit plus facile d'accès. Alors, mon dernier rêve sera pour vous, c'est une façon d'aborder Chateaubriand par le côté amusant, si l'on peut dire, à savoir ses peines de cœur. Alors, c'est un homme qui a été couvert de femmes. Il était petit, il avait une épaule qui était plus haute que l'autre, il avait une tête qui était trop grosse par rapport à son corps, mais il avait des yeux absolument magnifiques, une chevelure romantique avant l'heure, qui faisait que, et puis surtout, il avait une écriture et une façon de parler qui mettaient toutes ces dames à ses pieds. Et comme partout, la gloire arrivant, il y en avait toujours plus, il n'avait que le choix. Bon. Alors, quatre femmes, quand même, sont importantes dans la vie de Chateaubriand. D'abord, sa sœur.
Oui, toujours Chateaubriand ?
Toujours Chateaubriand, oui. Oui, puisque c'est quand même une biographie de Chateaubriand. Oui. Bon. Donc, il y a quatre femmes importantes dans la vie de Chateaubriand. Sa sœur, premièrement, qui a eu toute sa vie une relation fusionnelle avec son frère qui s'est jeté par la fenêtre à 40 ans, avec un délire de la persécution. Enfin, c'était quelque chose d'épouvantable. Elle avait réussi à circonvenir son frère quand il était rentré d'Amérique au moment de la terreur. En lui disant « il faut absolument que tu te maries, elle t'apportera de l'argent, tu n'as pas un radis, tu es un cadet de famille ». Bon, il était sur le point de partir à l'armée des émigrés et il s'est laissé faire et il a épousé une jeune fille qu'il avait aperçue de loin sur la chaussée du Sillon à Saint-Malo, dont il ne connaissait même pas la tête, il savait qu'elle était blonde et elle avait un paletot rose le jour où il l'a aperçue. Elle s'appelait Céleste de la Vigne-Buisson. Elle avait 600 000 francs de promesses à venir qui se sont révélés être 150 000 francs d'actions en communauté avec ses frères et sœurs. Moyennant quoi, il s'est trouvé avec sur le dos une femme qu'il n'aimait pas et qu'il a passé toute sa vie à fuir. Donc, chez Chateaubriand, il y a donc... le désir d'être aimé, mais aussi la fuite. Le désir d'être aimé par toutes ces jolies madames, comme disait Madame de Chateaubriand, et la fuite parce qu'il ne voulait pas vivre avec sa femme. Donc, c'est pour ça qu'il partait, il demandait des missions diplomatiques à Rome, en Suisse, dans le Valais, là où il n'avait rien à faire. C'est pour ça qu'il est parti à Jérusalem. Alors là, Jérusalem, c'est un peu spécial parce qu'il avait à l'époque un amour fou pour une jolie madame. qui s'appelait Nathalie de Noailles et qui, elle, était passionnée par l'Espagne. Donc, pour pouvoir retrouver sa chérie en Espagne, à Grenade, il est parti à Jérusalem avec sa femme. Il a planté sa femme à Venise et il a fait son voyage à Jérusalem, puisqu'il en a tiré un livre magnifique. Et il est revenu par l'Espagne, tout content. Ils ont porté le parfait amour pendant tout le trajet. Après Nathalie de Noailles, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais il y a eu surtout Juliette Récamier. Juliette Récamier, il l'a rencontrée chez Madame de Staël, au moment où Madame de Staël était mourante. Juliette Récamier, c'était une merveille, une beauté. C'était une. Les différents tableaux qu'on en voit ne donnent, paraît-il, que très peu l'idée de ce qu'elle pouvait être, parce que ce qui se dégageait d'elle était un charme fou qu'on ne rend pas par la peinture. Mais il y avait le charme, plus la régularité des traits, plus le fait que c'était un Tanagra qui portait la toilette superbement. Et c'était la douceur même. Bref, il est tombé amoureux fou de Juliette. Et il s'est retrouvé coincé entre Juliette d'un côté et sa femme de l'autre, parce qu'elle a tenu longtemps, Céleste. Hein, elle a tenu longtemps. Et donc, tout ce qu'on a actuellement dans les mémoires d'Outre-Tombe se rapporte à Juliette Récamier. Alors, quelle drôle d'idée pour un homme comme Jean d'Ormesson, qui a le don du bonheur, qui ne nous parle dans ses livres que du moyen d'aller au bonheur, que de faire la biographie d'un homme qui était attiré par le malheur. D'ailleurs, il le dit dans un petit extrait.
Oui, hein. Yann.
Voilà. Il aimait le malheur. Toujours, il avait aimé le malheur. Le bonheur l'ennuyait. Le succès aussi. La victoire l'énivrait et il la haïssait. Il ne pensait qu'à la gloire et il la méprisait. Il s'était jeté dans la passion comme dans un brasier ardent où il se laissait dévorer. Au moins, elle lui apportait-elle des choses nouvelles et souvent affreuses, mais qui ne l'ennuyaient pas. Il avait toujours beaucoup craint l'ennui. Dès sa jeunesse, il avait souffert à la fois d'une exaltation fiévreuse et d'une espèce de lassitude, d'indifférence à tout, qu'il s'était efforcé de noyer dans le tourbillon des jours et sous la splendeur des mots. Il y avait réussi avec éclat. Quand il se retournait sur sa vie, ce qu'il faisait de plus en plus souvent depuis qu'il écrivait ses souvenirs et que l'âge l'accablait, elle lui apparaissait comme un chef-d'œuvre d'illusion rattrapé par les mots, sauvé par le langage, étouffé de songes et de malheurs qui ne se distinguaient plus guère les uns des autres. C'est effectivement un homme qui n'aimait que le malheur, qui était détesté parce que tout en étant, en se laissant porter par la vie en ce qui concerne ses amours, était un homme très courageux sur le plan politique. Il a eu le culot de tenir tête à Napoléon, il a eu le culot de renvoyer ses bienfaits à Louis XVIII parce qu'il n'avait pas les mêmes idées que lui ou qu'il ne faisait pas ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Et moi, je trouve qu'effectivement, sur le plan politique et sur le plan littéraire, c'est un homme extraordinaire. Mais il y a ces madames qui ont certainement scandé aussi ses réussites. Et Jean d'Ormesson était en extase devant cet homme qui était à la fois haï, détesté, rejeté, et en même temps adoré, adulé. Oui. Et après tout, n'oublions pas que Victor Hugo a dit « Je veux bien être écrivain, mais être Chateaubriand ou rien ». Voilà, alors ce livre a été édité chez Jean-Claude Lattès. La première édition date de 1982, ça m'étonnerait que vous la retrouviez, mais il vient d'être réédité en livre de poche. Et donc, profitez-en, c'est un bonheur à lire, c'est très bien écrit, c'est très drôle parce que l'écriture de Jean d'Ormesson, c'est la même façon que sa façon de parler, avec un vocabulaire extrêmement moderne, et le décalage est absolument fantastique entre les deux. Voilà.
Merci, Anne. Superbe. Juste une petite question encore sur ce livre. Est-ce que c'est un roman, une autobiographie qu'on peut, une biographie, qu'on peut dire, enfin, on peut dire que c'est, comment dire, c'est historique aussi.
Ah, tout à fait.
Où vraiment, il s'attarde principalement sur ces histoires de cœur.
Oui, mais les histoires de cœur sont en même temps sa vie.
Oui, c'est-à-dire que c'est indissociable, bien sûr.
Je vais vous donner un exemple. Celle la plus célèbre, c'est Pauline de Beaumont, qui est morte à Rome, qui était tuberculeuse. C'est grâce à Pauline de Beaumont qu'il a fait éditer Le génie du christianisme. C'est elle qui lui a relu toutes les épreuves. Il y a eu Delphine de Custine qui l'a poussé dans la carrière. Il y a eu donc Nathalie de Noailles avec laquelle il a fait le voyage en Espagne et grâce à laquelle il a écrit l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Il y a eu Hortense Allard. Après, Juliette Récamier était en filigrane. Mmh. Mais il y a eu Hortense Allard qui était la dernière des madames, était une toute jeune femme et qui, elle, l'a poussée à écrire aussi les derniers livres qu'il a édités. Et puis surtout, Jean d'Ormesson s'est appuyé non seulement sur les mémoires d'Outre-Tombe, tout est pris à partir de l'écriture de Chateaubriand, mais aussi les lettres, parce que c'était un écrivain absolument extraordinaire. Ouais. Il détestait écrire des lettres, et quand il écrivait des lettres, c'était des bijoux, et il s'est appuyé sur ces lettres.
D'accord.
Voilà.
Très bien, merci beaucoup Anne.
Je vous en prie.
Catherine?
Alors moi, je vais quitter également le froid, quitter le siècle dernier, et je vais me retrouver aujourd'hui.
Ah, quel voyage!
Alors, je vais vous parler, le contraste avec celui d'avant, c'est un petit livre, vraiment, parce qu'il se lit très vite, et sur un sujet d'actualité, si je peux dire. Alors, l'auteur s'appelle Léonore de Recondo. Elle a déjà un très beau nom. Il y a des gens qui ont tout dans la vie. C'est une très belle femme qui a été violoniste baroque tout à fait reconnue. Elle a donc joué du violon pendant 35 ans. Et puis tout d'un coup, elle s'est mise entre deux concerts, a commencé à écrire un journal, a commencé à écrire des romans. Et c'est devenu une évidence pour elle de partager sa vie avec ses deux passions. Et elle fait tout bien. C'est agaçant.
C'est énervant. On l'invitera pas.
Alors, à chaque fois, alors, c'est peut-être le fait d'avoir travaillé le violon, puisque c'est quand même quelque chose de physique aussi, la musique. C'est avec le lien avec le corps. Dans ses romans, parce qu'elle en a écrit plusieurs, il y a toujours ce lien avec le corps, ce questionnement sur le corps, ce qu'est le corps, les réactions du corps, etc. Donc, elle a commencé à écrire des romans vers, je crois que le premier, c'était en 2012. En 2013, elle a publié Pietra Viva. Si vous vous intéressez à Michel-Ange, c'est une merveilleuse histoire sur Michel-Ange et son travail de la sculpture, donc toujours ce travail de la matière. C'est un très, très beau roman. Elle a écrit ensuite un roman qui s'appelle Amour. Alors là aussi, sur un sujet particulier sur ça se passe au début du siècle et c'est sur la découverte par une femme de son homosexualité. Et là, elle s'attaque à un sujet important puisque c'est la question du genre. Et le sujet, c'est une sorte de mue inéluctable d'un père de famille qui choisit d'être femme. Donc, c'est vraiment on suit cette alors transformation, c'est peut-être pas le mot, c'est surtout révélation, c'est-à-dire que cet homme tout d'un coup il a la certitude qu'il est une femme et il est déterminé à s'assumer malgré sa femme qu'il aime, ses deux enfants qu'il aime et tout son entourage. Et on voit vivre cette mutation. Alors, ce qui est aussi très, très fort, c'est que Léonore de Recondo a un style très épuré, magnétique. Il n'y a pas de chichi, pas d'après. C'est des phrases courtes, parfois lapidaires. Un leitmotiv des pronoms personnels, et on voit l'importance, il, elle, etc. Et c'est une écriture limpide. Mais pour parler de quoi, en fait? De transparence ou de recherche d'une transparence. Et c'est le combat d'un être pour être lui-même. Alors, quand je parlais de sa paternité, puisque c'est compliqué, cet homme qui s'affirme femme, une chose dont je n'ai jamais douté, si je ne me suis jamais senti homme, je me suis toujours senti père. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le questionnement de Léonore de Recondo qui a été récompensée pour ce livre par un prix, et qui est un prix de jeune, puisque c'est le prix, je crois que c'est FNAC, je ne vais pas dire de bêtises, le prix du roman des étudiants, pardon, de France Culture Télérama. Mm-hmm. Et pourquoi donc elle a presque, pas dire été étonnée, mais de l'engouement que ces jeunes ont eu pour son roman. Parce que Léonore de Récondo, elle est de la génération sida. Elle dit « J'ai grandi à l'ombre du sida, je suis de la génération du repli sur soi par rapport à la sexualité, un repli lié à la peur, vers quelque chose de plus conventionnel, avec un retour en force de la maternité. J'ai l'impression que les jeunes sont en train de rouvrir ce qui s'était fermé. » Et elle dit un peu plus loin, « J'ai beaucoup travaillé sur ce basculement dans l'écriture, où mon héros, Laurent, cesse d'être il pour devenir elle. L'aventure linguistique de l'évolution de ce pronom m'a permis de sentir combien la langue française est genrée. » Voilà un mot. Les réflexions actuelles sur la grammaire me passionnent. La langue fait état de l'avancée de la pensée d'une société. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge et c'est salutaire. D'ailleurs, elle dit, c'est très amusant parce qu'elle dit, quand j'ai écrit mon roman et que je l'ai donné, enfin, quand elle, comme tout le monde, elle tape sur un clavier et qu'à chaque fois, le logiciel la reprenait en disant, mais non, on ne peut pas mettre il et mettre un e. Alors qu'elle, dans toute sa construction, elle se mélange et le système ne comprenait pas ce qu'elle pouvait faire. Donc, c'était intéressant à ce niveau-là. Donc, voilà à peu près le sujet. Mais, enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout... C'est ça qui est, enfin, ce n'est pas un roman du tout sur la sexualité. C'est vraiment sur l'identité. C'est la recherche d'identité.
Alors, dans ce roman, on reste au cœur, justement, de la famille de cet homme-là.
Voilà. Complètement.
Où on est dans sa vie aussi sociale.
Alors, il est... Alors, au début, pour essayer d'ouvrir un peu des soupapes de cette sorte de carcan qui s'est créé, malgré lui. On va le voir, je vais lire juste le début. Il se travestit, en fait, pour être de temps en temps femme. Et puis, il se rend compte que vivre dans la duplicité, c'est pas ça. Donc, lui, ce dont il rêve, c'est pouvoir dire « je suis une femme » à sa femme, à ses enfants, à ses collègues, et qu'il l'accepte. Mais
c'est toute une souffrance.
Que c'est pas facile. C'est pas facile. Et évidemment, si vous voulez, l'auteur saisit avec subtilité et délicatesse tous ces fragiles mouvements de l'âme. Hein, l'histoire, elle avance sur un fil, hein, le fil de cette mutation qui touche évidemment tout l'entourage du héros. Lui, il est dans une évidence. Hein, c'est l'évidence, il vit son changement de sexe comme une mue naturelle, une évolution inéluctable. Mais en revanche, c'est beaucoup plus chaotique dans son entourage. Hein, c'est incompréhension, c'est colère, c'est compassion. Il a deux enfants. Alors d'abord, il y a de l'incompréhension de la part de sa femme, de la colère de la part de son fils qui fait tout pour fuir la maison tellement il a honte de son père, ben il ne sait même plus quoi dire, la compassion de ça. Une fille qui ne comprend pas, mais qui ne rejette pas. Et on voit aussi que la mutation du père va entraîner une mutation de tous les personnages. Et c'est une histoire aussi d'amour, parce que la femme, on pourrait se dire, elle claque la porte, elle s'en va, elle divorce, ça arrive à des tas de gens. Non, elle veut comprendre, elle aime cet homme l'aime. Donc elle veut essayer de comprendre ce qu'elle peut faire, comment elle peut vivre avec cette énormité pour elle. Voilà.
On connaît la démarche de l'auteur. Est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie ?
Eh bien non. Enfin, justement, moi, je l'ai entendu en parler. En fait, elle est très curieuse, comme elle l'a fait pour, dans ses autres romans, sur le corps, sur l'identité. Mmh. C'est quand même une question qu'elle se pose en permanence dans son écriture. Et bon, c'est vrai que c'est un sujet qui bruisse dans l'air, et elle s'est vraiment intéressée à ces... Mais non, elle n'a pas eu de témoignage direct à ce moment-là. En revanche, quand son livre a été publié, à chaque fois qu'elle va à la rencontre de ses lecteurs, elle a un nombre de témoignages incroyables, de gens qui disent « mais c'est mon histoire que vous avez écrit ». Enfin, elle se rend compte à quel point elle a touché juste.
Bien sûr.
Elle a touché juste.
Parce que ce n'est pas qu'un effet de mode, en effet. C'est vraiment... C'est un sujet parmi d'autres, hein, mais c'est un sujet qui revient effectivement sur le tapis. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est bien... je trouve ça intéressant que tu soulignes que ça a été pris de cette manière par la jeunesse.
Oui, parce qu'ils sont vraiment interpellés par ça. Bon, moi, je ne suis pas de cette jeunesse, évidemment.
Ah bon?
Et c'est...
On dirait pas.
C'est dommage. Pas un homme, dans la bonne tradition pour dire non, non, non.
Oui, voilà, c'est ça.
Et en fait, sur le moment, c'est vrai que moi, ça me bousculait, parce que c'est pas un sujet évident
c'est un
qu'on aborde.
Difficile.
Voilà. Et nous, on n'est pas prêts tellement à ça. Enfin, je dis nous, génération et tout. Et c'est pour ça que je crois que les personnes qui sont loin de ce type de sujet, qui le lisent,
ouais.
c'est une façon d'aborder ça. Ouais. On ne dit pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort. C'est pour eux, lui, c'est une évidence. Il faut qu'il arrive à vivre avec ça. Et surtout qu'il arrive à le faire accepter par son entourage pour qu'il puisse être lui-même. Il recherche à être lui-même. Mais il n'y a aucune, il n'y a pas une histoire de sexualité là-dedans.
Et la question qu'on peut poser également, en élargissant le problème, c'est, bon, la famille accepte, plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans la partie sociale de sa vie ?
Il en parle.
Son emploi, ses
alors, c'est
ses
très,
amis,
voilà.
C'est...
Alors, il en parle beaucoup et c'est très curieux. Alors après, c'est, enfin, je dis il, elle, enfin, c'est compliqué. Mmh, d'ailleurs, voilà, on joue encore sur les pronoms.
Ouais.
Entre l'auteur et le héros. Et bien sûr, il en parle, mais pour lui, le plus dur, c'est de dire, un jour à table, il dit à sa femme et à ses enfants, je suis une femme. Vous imaginez déjà le dîner de famille un peu perturbé. Et puis, autant il les prépare doucement, avant de s'habiller en femme, etc., etc. Autant au boulot, le jour où il a décidé de s'assumer en femme, dans la même journée, il va au travail. Personne n'est prévenu. Et il n'y a qu'une personne, enfin au boulot, il y a une femme avec laquelle il est très proche. Dès qu'il a des soucis, il lui en parle, mais il ne lui avait jamais parlé de ça. Et en fin de compte, c'est elle qui le rejette le plus. Mais bien sûr, il y a le patron qui lui dit « Écoute, je respecte tes heures, mais ça serait bien que tu demandes une mutation, que tu changes de boulot, que tu ailles dans un truc neuf où on ne connaissait pas d'avant. Mmh. » Évidemment qu'il y a, il y a des problèmes. D'ailleurs, quand on le voit partir au boulot dans son petit tailleur, bien maquillé et tout, on se dit « Oh là là là, il va au casse-pipe, c'est effrayant. Mmh. » Donc, on a vraiment... on y est, quoi. On y est vraiment.
Oui. Mmh.
Mais voilà, ça bouscule. Ça bouscule pas mal.
C'est bien.
Alors, je vais lire rapidement le début. Bon, comme je vous ai donné le sujet, parce que c'est vrai que là, vous n'aurez pas trop de surprises. Mathilda conduit jusqu'au rond-point, puis se gare sur le parking du supermarché. Presque personne à cette heure-ci. Elle choisit une place loin de l'entrée, éteint le moteur, insère le disque dans la fente du tableau de bord. À l'ombre de la grande enseigne, la musique surgit, le volume à son maximum. « Oh Lord, who will comfort me ?» Mathilda cale un miroir sur le volant, se regarde, se trouve belle et triste à la fois, observe son menton, son nez, ses lèvres. C'est le moment du dépouillement, le pire de tous. Elle sort de la voiture, ouvre le coffre. Sous la moquette, la roue de secours a disparu pour abriter une mallette. Elle la saisit en tremblant. Combien de temps encore ? Mathilda se rassoit, la mallette en aluminium lui glace les cuisses. Elle actionne les petits clapets qui se soulèvent avec un bruit sec. Elle prend une lingette démaquillante, se frotte doucement les yeux, puis commence à retirer ses faux cils. Son visage se déshabille. Lorsque les cils sont rangés dans leur boîte, Mathilda a presque disparu sous les restes de crayons noirs, de couleurs brouillées, de mascara étalé jusqu'aux pommettes. À ses pieds, entre les pédales, les lingettes imbibées de fard sont jetées, froissées, beige, noir, rouge, marron. « My soul is wearing ». C'est la troisième fois que Mélodie Gardot entame sa chanson. Mathilda fait une pause et chante avec elle, tape sur le volant en mesure. Si elle en avait le courage, elle sortirait et danserait. Elle ouvrirait grand les portières, ignorant passants et curieux. Elle ondulerait, frapperait dans ses mains, s'exhiberait, mais elle n'ose pas. À moitié démaquillée, Mathilda maintenant reprend son souffle, pose son crâne sur l'appui-tête, attend encore un peu avant de continuer, puis regarde l'heure. Ah, il est 20h17, il faut rentrer. Alors, méticuleusement, elle enlève toute trace sur son visage. Mathilda transpire, les tempes lui brûlent, elle retire les épingles et le filet qui retiennent sa perruque, range la chevelure dans sa pochette, vérifie ensuite ses yeux et sa bouche dans le miroir, tout est vierge, le fond de teint s'est dissous. Elle doit maintenant se déshabiller et enfiler ses affaires de sport. Mathilda se contorsionne pour enlever sa robe de soie, sa culotte et ses bas sont roulés jusqu'aux chevilles. Laurent est complètement nu. Il attrape son sac à dos sur la banquette arrière et le pose sur le fauteuil passager, fouille dedans, sort un caleçon, un bas de jogging, un t-shirt, des chaussettes, fait vite. La voiture est jonchée de vêtements, de lingettes usagées, un chaos à l'image de son désordre intérieur. Révolté d'avoir arraché ses habits de lumière, Laurent retourne à l'ombre, jure, s'habille, se crispe, range tout ce qui doit l'être dans la mallette qui trouvera refuge dans le coffre sous la moquette. Lui restera le mensonge. Quelques minutes plus tard, il est prêt. Du désordre, on ne voit plus rien. En démarrant, il coupe la parole à Mélodie Gardot. La radio déverse les dernières informations. Il doit se concentrer, la maison n'est pas loin. Il a peu de temps pour se calmer, pour oublier les instants de joie. Cynthia et ses amis du Zanzibar, la musique et la soie. La réalité, ce sont les nouvelles du soir, la météo et les publicités. Laurent n'est plus qu'à quelques rues de chez lui. Il ralentit, respire profondément. Je suis Laurent, faire semblant. Il tourne à droite, le portail est ouvert, la voiture roule sur le gravier. Il s'arrête, enclenche le frein à main et attend encore un peu. À cet instant, il aimerait se fondre dans le tissu synthétique du siège, disparaître, puisque Mathilda n'est pas.
En effet, on voit, on y est hein, dans cette transformation, comme tu disais tout à l'heure. Hein.
On sent un pis-aller. Ouais. C'est pas le vrai personnage, mais c'est, je veux dire, l'écriture est d'inefficacité.
Complètement.
Pourtant, c'est des phrases courtes, très simples.
Mais c'est justement parce que ce sont des phrases courtes et très simples que ça percute. Ouais.
Mais encore une fois, je suis vraiment ravie de tous les romans et livres et biographies et trilogies, enfin tout en i aujourd'hui.
Alors je vais quand même donner les références. Alors
voilà, c'est ce que j'allais te demander.
Ça va pas. Ouais. Donc c'est son dernier ouvrage qui a été publié en 2017 chez Sabine Vespizer, qui magnifique, est une merveilleuse éditrice. Donc l'auteur s'appelle Léonore de Recondo et le titre de l'ouvrage c'est Point cardinal.
Alors, Sabine Vespizer a été pendant très longtemps un cadre de chez Actes Sud, avant de monter sa propre maison.
C'est ce qu'elle nous a raconté d'ailleurs, parce qu'elle est venue à Blois il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est vraiment une marque de qualité.
Encore du beau monde.
Tout à fait.
Merci beaucoup à toutes les deux. On termine vite, chers éphériens et éphériennes. On se retrouve le mois prochain pour Du vent dans les pages. À bientôt à la radio.